Radio Okapi. À la présentation du journal, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, l'ouverture ce lundi à Kinshasa de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Au centre des entretiens, l'insécurité à l'est de la RDC, les tensions entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la situation humanitaire. À la une également ce matin, cette affaire de Jean-Marc Kabound, avec les réactions qui continuent à tomber. La dernière, celle du député national Augustin Moulumba, qui condamne des propos vexatoires contre la personne du chef de l'État. Le contrôle d'une carrière minière à la base des récents affrontements entre deux groupes armés en Ituri. Des affrontements qui ont causé la mort d'une vingtaine de miliciens dans les deux camps, selon plusieurs sources concordantes. Nous en parlons à la fin de ce journal avec notre invité, le gouverneur de province de l'Ituri. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'insécurité à l'est de la RDC, les tensions entre la RDC et le Rwanda ainsi que la situation humanitaire font partie des sujets qui seront entre autres traités ce lundi à Kinshasa. C'est au cours de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. C'est ce que précise la porte-parole adjointe du président de la République dans une interview exclusive à Radio Okapi. On écoute Tina Salama dans cet extrait proposé par Alain Hirong.
Part belle sera bien évidemment accordée aux questions sécuritaires, on va dire à la défense et à la sécurité, au vu de l'actualité. Alors, ce qui devrait en tout cas intéresser nos compatriotes, les Congolais, c'est de savoir que pour cette 21e session ordinaire, la montée de tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sera vraiment au centre des débats et des discussions. Alors, il y a d'autres sujets bien évidemment très importants pour les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment la flambée des prix des produits de première nécessité, par exemple. Et cela, on connaît tous les causes, c'est à cause de ce qu'on appelle la mauvaise campagne agricole, le dérèglement climatique qui nous touche, les effets néfastes encore que nous subissons de la pandémie de Covid-19. Et puis, il y a également les effets néfastes, on va dire, ou les retombées de la crise russo-ukrainienne. Ça nous touche d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a d'autres sujets importants, notamment la crise humanitaire qui sera au centre du débat également parce qu'il y a quand même beaucoup de déplacements des populations. Il y a la persistance des périls sécuritaires dans la bande qu'on appelle Sahélo-Sahara. Sur le lac Tchad, il y a des conflits intercommunautaires.
Dans l'entretemps, la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui sera incessamment déployée en RDC, sera une force offensive et non d'interposition. Elle aura pour mission de déloger toutes les forces négatives, en commençant par le 1-23 en cas d'échec du processus politique. C'est ce qu'a déclaré samedi à Kinshasa le ministre des Affaires étrangères au cours de la conférence de presse conjointe organisée avec son collègue de la communication et des médias. On écoute Christophe Lutundula dans cet extrait choisi par Alain Hirong.
Nous avons éviter des télescopages avec une autre initiative forte qui est aujourd'hui acceptée et soutenue par la communauté internationale, d'abord à partir de l'Afrique, l'Union africaine et son Conseil paix et sécurité. L'initiative elle-même vient d'une communauté, la communauté d'Afrique de l'Est. Et puis au niveau mondial, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui soutient l'initiative. C'est la mise en place de la force régionale dont la finalité, la mission est une mission offensive. Ce n'est pas une force d'interposition. Ceux qui se souviennent encore du communiqué d'avril, 21 avril, si je ne m'abuse, de Nairobi savent que l'alternative militaire, en cas d'échec de la perspective politique, c'est cette force-là qui doit déloger toutes les forces négatives, en commençant par l'M23 et le reste. Nous avons estimé que ce qu'il faut faire maintenant, ce n'est pas de créer une autre force, c'est de faire que la force régionale dont les prémices sont en train d'être jetées maintenant soit rapidement opérationnelle.
Dans l'entretemps, dans la province du Haut-Touélé, l'activisme des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur a sensiblement baissé au cours des 5 dernières années dans les territoires du Faradjé. Selon les autorités locales, cette amélioration est due au système d'alerte précoce mis en place par l'ONG internationale Invisible Children, un vaste projet dont l'objectif est d'impliquer tous les membres de la communauté à remonter en temps réel les informations sécuritaires auprès des autorités, notamment en cas de tentative d'incursion de ces rebelles. Envoyé spécial depuis Faradjé, Jean-Claude Lokidile.
Ce Ce projet qui est exécuté dans les deux provinces du Haut et Bazuélé vise à former les membres de la communauté afin qu'ils soient en mesure de contourner des dangers dans la zone où opèrent différents groupes armés. 93 membres de la communauté ont ainsi été dotés de radiophonie reliant entre elles pour relayer en temps réel les alertes sécuritaires. Thomas Bolbanzé, le responsable de ce projet.
Quand il y a une alerte, qu'est-ce que nous faisons? Sensibilisation de toute la communauté, demander par exemple aux femmes de ne pas aller seules à la source d'eau, aux champs, aux hommes de ne pas aller seuls à la chasse, pour se protéger avant que le danger n'arrive dans leur communauté.
Du côté des autorités locales, on note une nette amélioration des conditions sécuritaires, ce qui a permis aux nombreux habitants de reprendre les activités des champs et à de nombreux enfants de reprendre le chemin de l'école. Jean-Marie Gaspard Maudry-Voudry est l'administrateur du territoire assistant de Faradji.
La population est tapée. Il y avait parfois les coupées des routes avec les là où il y avait enlèvement des gens. Maintenant, les gens travaillent. Il n'y a rien, pas de menaces, pas de coupées de routes. Les gens peuvent voyager. On ne pue plus les gens. Ce phénomène a disparu.
Notons que ce programme s'inscrit dans le cadre du projet de résilience communautaire en Afrique centrale, financé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID. De Faradji, Jean-Claude Loki Dile, Radio Kapi.
Nord Kivu, au moins 4 enfants ont déjà perdu la vie à la suite du conflit armé qui sévit dans le Rutshuru. L'UNICEF se dit très préoccupé par les récentes attaques des civils dans ce territoire, en particulier la situation des enfants. Dans une déclaration à Radio Kapi le week-end à Goma, les coordonnateurs pour l'Est de l'UNICEF a condamné cette escalade de violence et appelle les parties en conflit à mettre fin au combat afin de permettre un accès humanitaire aux zones touchées. Des détails avec Sifa Maguru.
D'après les coordinateurs Est de l'UNICEF basé à Goma, sur environ 158 000 personnes déplacées actuellement dans les Rutshuru, la moitié est constituée des enfants de 3 à 17 ans. Parmi eux, près de 41 000 enfants sont privés de l'éducation. Pendant ces temps, plus de 600 enfants sont séparés de leurs parents ou tuteurs depuis fin mars, alors que 29 000 autres n'accèdent pas à leurs écoles occupées par des déplacés dans les zones des réfuges, déplore cette agence onusienne. Jean Métainier, coordinateur de l'UNICEF pour l'Est de la RDC.
Les besoins sont, je dirais, de beaucoup de niveaux, mais le premier, c'est bien entendu une assistance alimentaire que les enfants et la population a besoin. La deuxième chose, c'est un accès aux soins de santé. On est aussi concerné par la multiplication des violences sexuelles qui ont été recensées au cours de ces dernières semaines vis-à-vis de la population déplacée. On a eu au minimum 93 cas qui ont été de viols qui ont été recensés, et en particulier beaucoup d'entre elles sont des mineurs.
Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
En bref, à Goma, toujours au Nord Kivu, le maire de la ville appelle tous les habitants à vaquer librement à leurs activités ce lundi 25 juillet 2022. Dans un communiqué rendu public hier dimanche, le colonel François Kabea a interdit toute manifestation publique car non autorisée. Il appelle dans l'entretemps les services de l'ordre et des sécurités à contrecarrer toute éventuelle manifestation non autorisée. Pendant ce temps, la Ligue des jeunes d'élus de Tshisekedi, Fédération de Goma, informe également la population qu'aucune marche contre la MONUSCO n'est organisée par elle. En tout cas, la jeunesse de l'UDPS souligne avec force décliner toute responsabilité quant à l'organisation de cette manifestation. Je le disais au sommaire, une semaine après la sortie médiatique du député national et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, les réactions continuent à tomber. La dernière est celle d'Augustin Moulumba, député national et président de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Il estime que les déclarations de Kabound dénotent tout simplement de la frustration après avoir été éjecté du perchoir de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound devait plutôt parler de son parti et du social de la population au lieu de verser dans des propos vexatoires contre la personne du chef de l'État. Des propos qui, selon Augustin Moulumba, constituent des infractions graves. Il a été joint par Pierrot et Lamangi.
Je voudrais bien rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que notre collègue, le président, c'est Jean-Marc, ex-président, je peux bien le dire, a été à la commande de l'Assemblée nationale comme premier vice-président de l'Assemblée. Sa sortie médiatique résulte de quelqu'un qui est frustré vraiment, qui a été éjecté du parti. Si le président Jean-Marc devait prendre parole pour peut-être présenter son parti politique qu'il a bien créé, il devait peut-être parler du parti, parler du social, parler de quelque chose, mais sa sortie, c'est une sortie ratée parce que l'homme s'est érigé en obstacle contre la personne du chef de l'État, qui se trouvait être son proche. Il a attaqué individuellement le chef de l'État. S'il y avait des conseils à donner aux gens, c'est de les laisser tranquillement et ne pas les fabriquer. Parler de Jean-Marc à tout moment, c'est une façon de les fabriquer. Vous savez qu'il est en train, il y a la provocation pour que si vous tombez dans les pièges, que les gens disent là, il a été arrêté parce qu'on a fait. Alors que, considérant ces propos, ce sont des propos vraiment satoires et téméraires qui constituent des infractions graves.
Contacté, plusieurs députés nationaux de l'opposition n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette affaire, estimant qu'elle est interne à l'UDPS. Dans l'entretemps, le parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound dit dénoncer ce qu'elle qualifie de dérive dictatoriale du pouvoir en place qui se consolide au jour les jours. Dans une mise au point publiée samedi dernier à Kinshasa, ce parti fustige également l'acharnement à l'encontre de son président national ainsi que l'instrumentalisation des services de l'État par le pouvoir en place contre son président après son point de presse de lundi dernier. D'autres détails avec vous, Alain Hiron.
Dans cette mise au point, le Collège des fondateurs de l'Alliance pour le changement fait remarquer à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il s'observe une agitation sans précédent du pouvoir en place par des actes ci-après. La suspension abusive des travaux du stade Wayawaya de Kingabwa, au motif fallacieux selon ce parti qu'il serait spolié par Jean-Marc Kabound alors qu'il existe des correspondances de demande et d'autorisation des travaux en bonne et due forme. Le parti de Jean-Marc Kabound parle aussi de l'encerclement de sa résidence privée vendredi 22 juillet par plusieurs éléments de la police ainsi que l'action disciplinaire ouverte par l'Assemblée nationale alors que selon ce parti, il n'existe aucune disposition du règlement intérieur de cette chambre qui donne ce pouvoir au bureau de l'Assemblée nationale. Le collège des fondateurs de l'ACH évoque aussi la réquisition du procureur général près la cour de cassation en insinuant selon lui des infractions imaginaires et politiquement motivées. Enfin, ce parti affirme, je cite, tout en luttant farouchement contre la criminalisation des débats démocratiques, l'Alliance pour le changement se réserve le droit de saisir désormais la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que le Comité des droits de l'homme des Nations unies à Genève. Fin de citation.
En province du Maniema, confusion autour de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu vendredi dernier dans la requête en inconstitutionnalité de l'arrêt du Conseil d'État du 31 mai dernier. Selon les juges, cette requête de la CENI dans le dossier des élections du 6 mai dernier a emporté à la tête de la province du Maniema Hubert Kishabongo et Tuma Yafali Bernard, respectivement gouverneur et vice-gouverneur, est jugé irrécevable et maintient l'acte pris par la dernière autorité compétente. Face à cet arrêt, il y a eu des marches de réjouissance du côté du gouverneur élu, mais aussi de la partie qui a saisi le Conseil d'État. Des détails avec Florence Kizalunga.
Du côté des députés de l'Union Sacrée et a voté les tickets Kishabongo Kindanda et Tuma Yafali, c'est une victoire car la justice a remis Kindanda dans ses droits. Kalukula Lutaka est le porte-parole.
Il s'agit de la joie que la population de Kindu vient de manifester pour l'application de l'état des droits. De toutes les façons, ce n'est pas tout le monde qui est juriste. Mais nous estimons que, même si nous ne sommes pas des juristes, nous interprétons l'article 74 de la Constitution. Il est très clair que la dernière qui a la compétence d'interpréter en matière de contentieux électoral lorsqu'il s'agit de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, c'est la Cour d'appel. La Cour a rendu l'arrêt en faveur des tickets gagnants des lignes sacrées.
L'autre parti au procès ne l'entend pas de cette manière. Maître Haroun Andarabou.
Ça n'appelle même pas à confusion parce que l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle était très clair. En ce sens que la Cour confirme la décision de la dernière autorité judiciaire compétente, c'est-à-dire le Conseil d'État. Or, le Conseil d'État a annulé le scrutin dans son ensemble du 6 mai dernier et a ordonné à la CENI de réorganiser une nouvelle élection.
Selon plusieurs témoins, cette situation laisse perplexe une grande partie de la population qui ne sait pas qui a raison et qui a tort. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
En bref, la province de Maïndombé est fortement touchée par l'épidémie des monkeypox qui a fait déjà 5 décès et plus de 100 cas confirmés depuis le début de l'année 2022. C'est précisément depuis la deuxième semaine épidémiologique jusqu'à la 27e. Cette contamination se justifie par les contacts avec les animaux malades, souvent abattus par des chasseurs dans cette province entourée des forêts. Le chef des divisions provinciales de la santé en appelle au respect des gestes barrières et à la non-consommation des animaux présentant des éruptions cutanées.
Actualité internationale.
Emmanuel Macron en visite au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. La France n'a pas vu l'Afrique centrale se mondialiser. Pour cette nouvelle tournée africaine qui débute ce lundi, le président français sera accompagné des ministres des Affaires étrangères, des armées et des relations extérieures, ainsi que la secrétaire d'État chargée de développement. L'Élysée dit vouloir garder le fil du renouvellement de la relation de la France avec ses partenaires africains. législatives au Sénégal, des élections test pour la coalition AAR de Tirno Alassane Sall. La campagne pour les élections législatives du 31 juillet prochain se poursuit au Sénégal. Parmi les 8 formations en compétition figure la récente coalition AAR Sénégal, alternative pour une assemblée de rupture créée fin avril. Sa liste nationale est dirigée par Tirno Alassane Sall. L'ancien ministre du président Macky Sall défend désormais une opposition d'idées.
L'invité.
L'invité de ce journal est le gouverneur de province de l'Ituri. Selon le gouverneur Johnny Lubroya Kanchama, les derniers affrontements entre les miliciens de la FRPI et ceux de la FPIC sont consécutifs à une dispute sur le contrôle d'une carrière minière. Des affrontements qui ont causé la mort d'une vingtaine de miliciens dans le décan, selon plusieurs sources concordantes. Le général Johnny Lubroya Kanchama s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Général Johnny Lubroya Kanchama, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel message avez-vous à ces deux groupes armés, FRPI et FPIC, qui se livrent à ce moment à des combats causant mort d'hommes parmi leurs combattants, alors qu'ils se sont déjà engagés au processus de paix à Ituri?
Le message reste le même. Ils ont signé les actes d'engagement et donc ils doivent respecter. Quand on signe les actes d'engagement, cela ne signifie pas que c'est avec le gouvernement seulement. Non, les actes d'engagement, c'est ne plus utiliser la force et ne plus utiliser les armes. Et ils doivent attendre le PDDRCS.
Ils doivent attendre le processus de DRCS, oui, mais entre-temps, comment tous ces miliciens vont faire pour leur survie?
Mais en attendant que ce processus arrive, chacun doit retourner à ses activités d'antan. Ici, il y a des grandes communautés. Il y a des fermiers, il y a des cultivateurs et donc ils doivent rentrer à ces activités-là. Il faut maintenant oublier cette histoire d'armes. Il faut oublier cette histoire d'extorsion. Donc maintenant, c'est le travail. Il faudrait que tous ces jeunes-là, qui sont des jeunes forts physiquement, ils doivent rentrer dans les champs, ils doivent rentrer dans leurs fermes. Ça ne sert plus à rien d'aller provoquer tel ou tel autre groupe au motif que non, voilà, ils ont pris notre carré minier, ainsi de suite.
Donc vous condamnez ces affrontements entre ces deux groupes de miliciens?
Mais comment? Je ne peux que condamner. C'est 18 morts, que ce soit FRPI ou FPIC, ce sont des jeunes qui viennent de se tuer. C'est 18 morts. C'est des morts de plus, on ne peut plus accepter ça. Surtout en ce moment ici. Et comme j'ai dit, ces jeunes-là doivent savoir que c'est vrai que je suis général, mais je suis quand même le représentant de la province. Ça devient gênant pour moi tout le temps de parler des jeunes qui se tuent parce que, bon, voilà, ils ont fait des actes d'engagement. Ça va, aujourd'hui, nous vivons quand même une accalmie. Mais non, voilà, maintenant, c'est entre eux. Non, mais ça devient gênant. Et quel est le message qu'on envoie aux autres Congolais? Les jeunes ituriens, rentrez dans vos activités. Vous avez une très belle terre. Rentrez dans vos activités, s'il vous plaît. Vous êtes fort, rentrer dans vos activités.
Entre-temps, ces affrontements entre la FRPI et la FPIC produisent déjà des faits négatifs dans la communauté par rapport à la cohabitation entre les communautés. Déjà depuis samedi, il y a une chasse à l'homme qui s'observe parmi la population Bira qui vit dans la chefferie de Walindoubindi et celle de Walindoubindi qui vit dans la chefferie des Andisoma, une entité Bira qu'on acquise d'être des connivences de l'un ou l'autre groupe armé. Comment pensez-vous mettre fin à ces conflits identitaires qui risquent de dégénérer?
Non, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques irresponsables. Il y a eu des morts de tous les deux côtés. FRPI, FPIC. Donc, Walindoubinti et Nyakoundé et ainsi de suite dans les environs. Donc, ce sont des enfants de ces villages-là, de ces contrées-là qui sont morts. Bon, maintenant, eux, ils se disent combattants, ils se sont tirés dessus et maintenant, ils commencent à s'en prendre aux civils qui vivent tranquillement dans tous ces milieux-là. C'est pas correct. Et comme on dit, personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est leur honte à eux. Ils se sont tués, ils se sont tirés dessus eux, et voilà, comment est-ce qu'ils peuvent s'attaquer à cette population civile qui est en train de vaquer à ses occupations? Non. Ils doivent arrêter ça. Bon, heureusement, jusque-là, ce sont des menaces, mais je leur demande vraiment d'être sages, de jouer à la sagesse et de laisser cette population libre et vaquer à leurs occupations.
Pour terminer, Mena, tout le monde attend le début des processus de DRCS. Concrètement, comment ça va se passer? C'est l'argent qu'on va distribuer à toute la population ou bien il y aura des projets spécifiques dans la communauté?
Je dis encore, je le dis à haute intelligible voix. Il y aura beaucoup d'argent. Les fonds qui vont arriver, c'est pour les communautés. Ce sera au bénéfice des communautés. Je répète très bien, il n'y aura pas d'argent qui viendra pour, n'est-ce pas, de... Non, il y aura de l'argent pour ceux qui vont travailler. C'est pour ça que je dis et je le redis, il faut faut que les gens rentrent à leurs anciennes occupations.
Général Johnny Luboya Nkashama, merci.
Vous l'avez bien suivi, le gouverneur de province de l'Ituri, général Johnny Luboya Nkashama, était notre invité. Fin de ce journal, merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.